Extra classe.
Notre Parlons pratique d'aujourd'hui s'intéresse à l'aménagement des espaces dans la classe, un sujet sur lequel Extra classe s'est déjà penché, n'est-ce pas Régis ?
Alors effectivement, un sujet sur lequel il y a beaucoup à dire. D'ailleurs, vous pourrez retrouver des épisodes Énergie scolaire et Parlons pratique, notamment sur la classe flexible. Mais aujourd'hui, on va faire un focus particulier sur la maternelle.
Et il faut dire qu'à la maternelle, l'aménagement des espaces est très lié au vécu des jeunes enfants. Et cet aménagement impacte beaucoup leurs apprentissages, on va le voir.
Avec pas mal de questions, quel lien entre espace et pédagogie, par quoi commencer, quel piège éviter peut-être, quels enseignements et généralisations pour les cycles supérieurs.
Nous allons essayer donc de répondre à toutes ces questions et nous irons aussi chercher peut-être des inspirations dans d'autres univers scolaires en Europe et au-delà.
Bienvenue dans notre programme d'exploration de l'espace classe en compagnie d'Evle Le Gallant et de Delia Gobert.
Evle Le Gallant, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseillère du recteur de Paris sur l'enseignement préscolaire et vous avez mené plusieurs missions et projets d'expertise au sein de plusieurs écoles dans le monde.
Mmh.
Delia Gobert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure des écoles et maîtresse formatrice dans une école maternelle à Châlons-en-Champagne.
Oui.
Commençons alors par le sujet, la classe, et notamment en maternelle, un lieu d'apprentissage, de socialisation, un lieu de vie qui est plus ou moins flexible, modulable. Comment, pourquoi est-ce que cet espace classe revient ou se trouve toujours, vous allez nous le dire, au centre des réflexions pédagogiques en maternelle. Evle Le Gallant, on peut entendre parfois que l'environnement spatial, c'est un troisième enseignant dans la classe. Qu'est-ce que ça signifie ?
Alors ça, c'est l'approche italienne de Reggio Emilia qui a, depuis maintenant de nombreuses années, identifié dans l'environnement la notion de troisième professeur. Hein. Le premier, c'est l'enseignant, bien sûr. Le deuxième, la deuxième identité, j'allais dire, d'apprentissage, c'est le groupe des pairs. Et le troisième, et c'est très formalisé, c'est à la fois l'aménagement de l'environnement, le matériel qui est proposé aux enfants et la manière, en fait, dont ils peuvent évoluer à travers des espaces qui sont dédiés et qui sont orientés. Hein. Mais pour peut-être donner deux, trois petits points d'appui pour savoir pourquoi aujourd'hui, à nouveau, on se pose la question de l'aménagement maternel, ben, j'allais dire, il y a trois entrées importantes. La première, c'est celle des mots importants du programme de l'école maternelle. On parle d'une école bienveillante. On parle d'une école qui donne la confiance et on parle surtout de la socialisation comme étant une compétence fondamentale à construire à l'école maternelle. Donc j'allais dire l'orientation, elle a été redonnée, l'impulsion a été redonnée par l'orientation du programme. Le deuxième élément, c'est la recherche scientifique. On sait depuis quelques années maintenant, hein, à travers Catherine Guéguen, à travers des gens comme Stanislas Dehaene ou bien Olivier Audet, que le développement et la construction du cerveau du très jeune enfant est fortement impacté par la nature et la qualité des expériences et des relations qu'il peut mener en fait dans cet environnement. Donc ça veut dire qu'il y a une relation directe entre ce qu'ils vivent, ce qu'ils observent, ce qu'ils ressentent et la manière dont se développe, j'allais dire, la compréhension et les apprentissages. Et puis le troisième élément que je trouve moi important, ce sont des recherches qui ont été menées par, plutôt sur la toute petite enfance, par Anne-Marie Fontaine et par Alain Legendre, ce qu'on appelle l'approche écologique, qui montre en fait que selon la manière dont on organise l'environnement de vie, d'évolution, d'apprentissage, de construction de la relation aux autres dans une classe, en fait, selon la manière, les choix qu'on fait, ça impacte directement, un, la qualité des relations entre les enfants, deux, la manière dont ils vont pouvoir, j'allais dire, s'inspirer, s'imiter les uns des autres, hein, puisqu'on apprend aussi par imitation, et trois, c'est un point important, ça a un impact direct sur le climat de classe. Un climat de classe serein, c'est un cerveau qui fonctionne bien, c'est un cerveau qui est en paix, et c'est un cerveau qui est complètement tourné vers les apprentissages.
Merci pour ces éléments éclairants, Evle Le Gallant. Delia, on a l'impression que la classe maternelle a un peu toujours travaillé dans ce sens-là, avec des espaces distincts, des ateliers, mais on se demande si c'est complètement nouveau, ces aménagements en classe maternelle. Et peut-être une entrée qui serait intéressante, c'est de savoir comment vous en êtes venu à l'aménagement des espaces classe avec vos élèves de maternelle.
Alors oui, c'est quelque chose qui a toujours existé, ce fonctionnement en atelier, par exemple. Après, chaque enseignant utilise le mot atelier différemment. Et je pense qu'on a été obligé de se questionner là-dessus, sur ce fonctionnement en atelier, sur les espaces, parce qu'on accueille de jeunes enfants. Alors moi, spécifiquement dans la classe, j'accueille les 3 ans, les 4 ans et les 5 ans. J'ai les 3 sections dans la classe. Donc du coup, ça fait des enfants vraiment différents. Et moi, en fait, j'en suis venue à ce questionnement sur l'aménagement des espaces après plusieurs années en maternelle, en observant les élèves. Et en se rendant compte que, voilà, il y a, comme le disait Ève, le climat de classe, enfin, l'aménagement des espaces joue beaucoup sur le climat de classe. Et le climat de classe joue aussi beaucoup sur l'aménagement des espaces. En fait, les deux sont liés. Hein, il y a des groupes classes aussi qui réagissent plus ou moins bien à des aménagements. On va prendre plus de temps pour expliquer certaines règles, certains cadres, etc. Donc voilà, moi, j'en suis venue en observant les enfants, en voyant que, par exemple, des petites sections ont besoin de beaucoup de mouvements. Donc, du coup, de beaucoup plus d'espace. Et puis après, je pense aussi que c'est avec l'expérience, avec l'expertise. Et puis après, se dire aussi, voilà, j'ose le faire, j'ose les regarder et j'ose me dire que un enfant a peut-être le droit de faire un puzzle par terre s'il est mieux avec cette position-là, par exemple. Moi, je reviens toujours aussi à ce que nous, on vit. Enfin, nous, quand on est adulte, on ne travaille pas tous sur le même plan, on ne travaille pas tous à notre bureau, on travaille certains sur le sol, certains sur le canapé, etc. Les enfants, c'est pareil. Et Ève le disait, un climat de classe serein, ça va être un cerveau tourné vers les apprentissages. Mais moi, ce que je vois aussi avec ces aménagements des espaces, en prenant compte des besoins des enfants, c'est que la motivation va être différente aussi. Un enfant à qui on donne une activité, mais on impose une posture de travail qui ne va peut-être pas lui plaire, sera moins motivé. Alors, il va le faire parce qu'il écoute l'enseignante. Alors qu'un enfant qui a cette même activité, mais avec le choix de le faire assis par terre, allongé, ou avec un copain avec qui il a envie d'être, et pas l'enfant à côté de qui la maîtresse veut l'asseoir, la motivation ne sera pas la même. Et obligatoirement, l'apprentissage sera différent.
Alors, peut-être pour compléter, excusez-moi, ce que dit Delia, c'est qu'effectivement, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le bien-être corporel de nos enfants qui vivent dans une société où, en définitive, on veut qu'ils soient actifs, on les stimule, on est quand même dans une société de surstimulation en dehors de l'école, en tout cas, quand ils arrivent à l'école, il ne faut pas les figer, ça c'est un non-sens. Il faut effectivement utiliser cette envie qu'ils ont de mobiliser en fait leur énergie à la fois physique, mais aussi leur énergie de projection dans des activités pour qu'ils puissent en fait tirer le meilleur de la situation. Il faut leur donner les conditions nécessaires, quelle que soit la posture, dans laquelle ils se sentent bien.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, justement, Ève Le Gallant, un peu les grandes lignes de ce que serait cette pédagogie des espaces et de ce que ça apporte concrètement aux élèves ?
Alors, ce qui est évident, Delia le dira sûrement, c'est qu'à partir du moment où on commence à observer l'espace dans lequel on accueille des élèves et dans lequel on conçoit des activités d'apprentissage, parce qu'on a toujours les deux liens à tenir à l'école maternelle, on est forcément obligé de modifier sa posture d'enseignants et, j'allais dire, un peu les pédagogies qu'on utilise. Et les pédagogies qui vont de pair avec une réflexion sur les incidences entre l'aménagement, le matériel mis à disposition, les regroupements d'élèves, les circulations dans la classe, ces pédagogies, elles sont basées sur les pédagogies de l'activité, c'est parce qu'ils agissent qu'ils apprennent, elles sont basées sur la pédagogie de l'explicitation, c'est-à-dire j'explique très précisément ce qui est comme intention explicite dans l'activité que je propose ou dans l'atelier que j'ai installé, une pédagogie dite positive, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les enfants essaient, même en se trompant, même en ayant, j'allais dire, à certains moments le sentiment de ne pas réussir, on les engage à aller plus loin, à recommencer, à refaire. Et puis une pédagogie aussi qui est liée à la valorisation de l'activité de l'enfant. Ça, c'est très important.
Delia, une question pour vous. Qui dit maternelle dit ATSEM. Quelle est la place de l'ATSEM dans vos pratiques autour de l'aménagement ? Est-ce qu'il y a une place particulière ? Est-ce qu'il y a des éléments qui changent ? C'est vraiment une question qu'on peut se poser parce que c'est particulier pour le coup.
Comme le dit Ève, en fait, la pédagogie est vraiment liée à l'aménagement des espaces. Et du coup, il faut expliquer ça aussi autant aux élèves qu'à l'ATSEM. Alors, moi, j'ai la chance de travailler depuis plusieurs années avec la même ATSEM. Donc, au fil des ans, elle connaît mon fonctionnement, je sais comment elle réagit, elle a appris aussi à utiliser ces espaces différents. Et je pense que la difficulté, je ne sais pas si c'est une difficulté, mais peut-être le frein un petit peu au début, que ce soit pour la TSEM, mais aussi pour les enfants, en fait, hein, c'est de comprendre à quoi sert chaque espace. Et ça, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé de cette pédagogie des espaces et qu'il faut aussi que chacun y mette du sens derrière. Donc nous, on explique, là, bah voilà, la période se termine. Voilà, on vient de passer une période, donc c'est quand même 2 mois de l'année, où on explique où sont rangées les activités, mais pas juste pour une question matérielle, mais pédagogiquement, au niveau des apprentissages, pourquoi je vais ranger cette activité-là, pourquoi, si je veux apprendre les nombres, je vais me tourner vers tel espace, etc. Donc ça, c'est un travail qu'on doit faire avec les enfants, mais qu'il faut aussi expliquer à la TSEM, bien sûr. C'est vrai que moi, en début d'année, la TSEM, elle se situe plutôt dans 2-3 espaces parce qu'elle va gérer plutôt des activités, on va dire, de motricité, de manipulation pour les petits qui sont peut-être plus simples à expliquer. Moi, je vais me tourner vers des activités avec des consignes plus conséquentes, plus pédagogiques pour les grands. Mais voilà, après, c'est un travail d'équipe. En fin de compte, moi, c'est ce que je dis aux enfants. On est une grande famille et il y a, voilà, c'est la TSEM, l'enseignante, les deux enseignantes, moi je partage ma classe, et les enfants. On fait tous partie de cette famille et du coup on doit tous respecter et comprendre les espaces ensemble.
On va rentrer un peu plus dans le détail, hein, puis essayer de donner des pistes pour mettre ça en œuvre. Mais juste avant ça, Eve Le Gallant, est-ce que vous qui avez exploré pas mal dans le monde d'autres écoles et donc d'autres approches, j'imagine, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous dire si ce qu'on dit là, c'est quelque chose qui est tout à fait répandu et admis ailleurs ? Est-ce que ça vient aussi de d'autres influences ?
Alors, il est vrai que l'Europe du Nord est très en avance, hein, par rapport à cette question-là. Pourquoi ? Parce que, en fait, le modèle éducatif et pédagogique de l'Europe du Nord, c'est un modèle, en fait, où l'enfant est accompagné dans son parcours, hein, dans son projet d'apprendre, où les adultes mettent à sa disposition un certain nombre de moyens matériels. Or, nous, en France, je vais être un tout petit peu critique, on a quand même globalement, j'allais dire, un modèle de classe qui n'a pas changé depuis que moi j'étais enseignante il y a très 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 longtemps. Jeune enseignante en école maternelle, à part quand justement les enseignants en équipe se disent on a envie de bouger notre espace et on a envie de faire en sorte que ils répondent en fait très précisément à des besoins et qu'ils soient un espace de convivialité et un espace d'apprentissage parce que tout ce qu'on propose a du sens pour les enfants. Globalement, quand même, en France, on fait pas beaucoup changer le modèle. Par contre, quand je suis allée aux USA, dans le réseau des écoles françaises, notamment en Californie, je me suis rendu compte en fait qu'ils avaient intégré notamment le travail d'un architecte spécialisé dans les aménagements, les conceptions d'espaces scolaires, qui s'appelle Prakash Nair, qui est un Indien de culture indienne, et qui avait lui introduit des paramètres très très intéressants. Et c'est pas très compliqué à faire. Un, le paramètre est celui en fait de l'utilisation du mobilier pour concevoir des circulations, c'est-à-dire que le meuble, c'est pas simplement un meuble de rangement, il va structurer l'espace d'évolution des enfants. L'utilisation des meubles bas plutôt que les meubles hauts, parce que les petits notamment, ils ont besoin d'avoir en fait un point visuel, une espèce de rapport visuel à l'enseignant, aux adultes d'ailleurs, qui fonctionnent comme des vigies, hein, comme des phares. Hein. Et donc, il renvoie en fait des messages dans le non-verbal dont les enfants ont besoin. Le troisième élément qu'ils utilisent beaucoup en Europe du Nord, c'est l'élément lumière, que moi je trouve très intéressant, c'est-à-dire que le fait qu'on fasse rentrer la lumière dans les classes et qu'on fasse rentrer aussi la nature. Donc, vous voyez, le dedans-dehors, c'est quelque chose qui est travaillé pour que les enfants aient l'impression que dans cet environnement, ils ne sont pas dans un espace artificiel coupé du monde, ils sont dans un espace qui va un peu mimer l'espace social. Hein. C'est ce qu'on fait avec les coins de jeu en maternelle, nous. Hein. Le coin poupée, le coin voiture, le coin dinette, c'est des mini-mondes. Hein. Et là, on peut aller un petit peu plus loin dans la conception des espaces pour que le monde ne soit pas laissé à la porte de la classe. Voyez
dans ce que vous dites, Eve, On arrive à se projeter, on voit des images et ça me permet de faire une belle transition vers la deuxième partie de l'émission en précisant que vous retrouverez sur Archiclass la captation de la classe de Delia en 360. Ça met, voilà, on voit des choses un peu concrètes. Et pour aller de ce côté-là, du concret, donc vers des pistes concrètes pour passer à l'acte, pour réaménager un petit peu ces espaces pédagogiques, on a essayé de faire remonter quelques questions, nous, pour préparer cette émission. Alors, on va pas forcément nommer ceux qui ont posé les questions, mais on a eu une question qui nous a paru particulièrement intéressante. Elle vient un petit peu gratter ce vernis. On nous dit, ben voilà, dans les nouveaux aménagements sur les réseaux sociaux, on voit des ballons, on voit des tapis, on voit des élastiques sous les tables. Est-ce que c'est quoi? À quoi ça sert? Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est pour faire joli? Vous voyez l'idée derrière la question, peut-être?
Eh oui. Alors, Delia, elle est parfaitement, j'allais dire, au courant de la manière dont on peut choisir les assises en fonction des intentions pédagogiques qu'on a.
Ouais, c'est ça, en fait, je pense que c'est le mot qu'il faut retenir, c'est intention pédagogique. En fin de compte, les élastiques, les ballons, alors on en voit dans les classes. Je pense que comme tout ce qu'on utilise en fait dans nos classes, hein, qu'on utilise un livre, une tablette, un élastique, un ballon, il faut se demander toujours pourquoi. Et comme je disais en début d'émission, il y a des groupes, par exemple, qui ne réagissent pas du tout pareil. Donc moi, spécifiquement dans la classe, j'ai un ballon qui me sert plutôt à moi parce que des petits de 3 ans ont du mal à s'asseoir sur le ballon. Il l'utilise plutôt en ce moment, il teste, hein, il l'utilise voilà, plutôt pour rouler dessus, etc. Donc après, il y a aussi des limites à mettre, il y a des règles à respecter, etc. Et puis, c'est les élastiques, par exemple, dans la classe, on n'en a pas. Alors, peut-être parce qu'il y a aussi d'autres éléments qui font qu'ils peuvent bouger en même temps. Et je pense que ces différents outils, que ce soit le ballon, les élastiques ou les assises, comme dit Eve, parce que dans la classe, on a des assises qui ont été réfléchies à partir des demandes des élèves, qui ont été faites chez Nathan. Et du coup, on l'a fait en fonction de leurs demandes. Donc eux, ils voulaient des assises qui peuvent être stables, mais à la fois qui peuvent être mobiles. Alors soit pour les mêmes enfants, parce que des fois, ils ont envie d'être... donc elles sont mobiles parce qu'ils peuvent se balancer d'avant en arrière. Alors, les mêmes enfants peuvent être avec des envies stables ou mobiles en fonction du moment de la journée, en fonction de l'activité. Mais aussi bah, parce que dans la classe, on a différents enfants et du coup, chacun a un profil différent. Par exemple, dans la classe, moi, j'ai des enfants qui ne restent que sur les chaises. À l'inverse, il y en a, dès qu'ils peuvent être allongés par terre, ils l'ont fait encore tout à l'heure. Voilà, un collage, ils l'ont fait par terre alors que certains étaient... assis à des chaises de manière, on va dire, plus classique.
Alors, avec cette question des assises, on avance déjà sur la question du corps aussi, hein, qui fait partie des apprentissages pour des jeunes enfants comme ça aussi. Eve Le Gallant, le corps, c'est aussi un des paramètres très importants dans cet aménagement.
Ah, c'est évident, hein, donner une place à l'évolution motrice et à une certaine activité corporelle, en dehors de tout ce qui peut être enseignement de l'EPS, hein, en salle de motricité, dans la classe, c'est permettre aux enfants, en fait, de construire leur schéma corporel et leur repère spatio-temporel dans un espace dans lequel ils vont pouvoir effectivement identifier, eux, un certain nombre de points d'appui. Et Delia le dit à très juste titre, ils sont différents, nos enfants. Ils sont différents parce qu'ils évoluent pas du tout dans les mêmes contextes, hein, éducatifs. Hein. Par exemple, il y a des familles qui engagent les enfants à aller, je le vois, hein, dans les squares quelquefois quand je regarde les enfants, à aller dans une activité physique, ils les engagent à aller vers les autres, etc. Il y a des familles, au contraire, qui, en fait, posent des sortes de limites à leurs enfants parce qu'elles ont un petit peu peur, en fait, que le corps déborde et qu'il aille trop loin, quoi. Et en plus de cela, il y a dans nos classes la question, en fait, des traits de culture. Donc, en définitive, l'école, cette question de la socialisation qui va passer par la construction de repères spatio-temporels, va aider les enfants, en fait, à construire un certain nombre de points d'appui qui seront très utiles quand ils vont arriver au CP.
On sent, hein, dans ce que vous dites, Eve Le Gallant, l'intrication forte entre la pédagogie et les espaces et tout ce qui est en creux. Dans cette section sur les conseils, justement, Delia, si je suis un enseignant ou une enseignante de maternelle, voilà, et je vous écoute et j'ai envie de me lancer, j'ai vu passer des choses à droite, à gauche. Quel premier conseil vous donneriez pour se lancer?
Premier conseil, je dirais juste un verbe, c'est oser déjà. Oser, ne pas avoir peur, donc c'est-à-dire essayer. Mais essayer, on sait, bah, c'est comme nos élèves, hein, c'est essayer, ça veut dire que ça peut réussir, mais ça peut aussi ne pas fonctionner. Et ce n'est pas grave, donc déjà oser. Et après, ben, comme on disait au début, c'est un lieu de vie pour tout le monde, pour les enfants, pour nous, mais surtout pour les enfants. Ils sont quand même plus souvent dans la classe que nous. Moi qui partage ma classe, par exemple, ils y sont plus. Et se mettre à leur hauteur, c'est-à-dire déjà les regarder, voir ce qui est occupé, ce qui n'est pas occupé comme espace, mais aussi quels jeux sont sortis le plus souvent, quels jeux ne sont pas du tout utilisés. Donc du coup, quels jeux on pourrait enlever de la classe, ou à l'inverse, quels jeux il faudrait peut-être mettre en double parce que ça crée des tensions tous les matins parce qu'ils sont deux ou trois à le vouloir. Donc il y a les observer comme ça. Et il y a aussi vraiment se mettre à leur hauteur. Ève le disait tout à l'heure par rapport aux meubles bas. Alors oui, c'est vrai dans la classe, mais des fois, on ne fait pas attention aussi aux portes. Et la porte par laquelle rentre l'enfant le matin, si on se met à leur hauteur, alors parce que c'est comme ça, parce qu'on n'a pas pu faire autrement, on n'y a jamais fait attention, mais des fois, il y a un bureau ou des fois, il y a un meuble. Et en fin de compte, l'enfant de son petit maître, la première chose qu'il voit, c'est comme si c'était un mur pour lui. Et on parlait d'accueillir, d'espace bienveillant, de choses comme ça. Ça ne donne pas forcément envie d'entrer. Et ce n'est pas une erreur, en fin de compte, c'est qu'on n'y a peut-être jamais pensé. Donc, il y a ça. Et après, si vraiment, dans un premier geste, j'ai envie de dire, on voudrait commencer avant de... Enfin, même avant de trier les jeux, des choses comme ça, c'est enlever son bureau. Parce que souvent, en maternelle, encore plus qu'en élémentaire, il ne nous sert pas vraiment, juste pour s'asseoir le midi ou le soir et encore... Et en fait, on se rend compte que moi, quand j'ai enlevé le bureau, donc j'ai ouvert des tiroirs, je me suis dit, mais mon Dieu, le bazar qu'il y a là-dedans, qui ne sert à rien. Et en fin de compte, un bureau, c'est vite 2 mètres carrés, voire 4 mètres carrés, parce qu'on laisse la chaise, on laisse l'espace pour déplacer la chaise, etc. Et sur une salle de classe, quelle que soit sa taille, quand on libère 4 mètres carrés, sans pour autant le remplir, hein, mais déjà visuellement, ça fait une masse énorme en moins. Et en plus, ça permet alors soit d'agrandir un espace, soit de laisser aussi un espace libre. Bah pour que les enfants puissent s'installer où ils ont envie, puissent se déplacer facilement, etc.
Une question qui nous est remontée aussi, c'est les esquites des espaces interstitiels. Alors, c'est comme ça que c'était nommé, c'est-à-dire le couloir, le préau, même la cour peut-être. Est-ce que ça rentre aussi dans votre réflexion ?
Alors, ils font partie de la réflexion. Ils font partie de la réflexion parce que la classe par elle-même, c'est quand même une boîte, c'est un espace clos, il faut l'ouvrir. Donc il faut investir les couloirs si l'on peut. Il faut aussi se poser la question de savoir de quelle manière les enfants se repèrent dans l'école de manière globale, hein, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont des repères dans les couloirs, est-ce qu'ils savent que derrière telle porte, c'est le bureau de la directrice, qui c'est la directrice, est-ce qu'ils savent se repérer tout seuls, y compris à 3 ans. Dans l'école, quand on les envoie, par exemple, porter un courrier à la directrice, elles qui savent repérer les lieux où vont pouvoir se prendre en charge au niveau de l'hygiène personnelle en toute autonomie. Donc, on a intérêt, en fait, à considérer que l'espace classe, il s'inscrit dans une approche systémique, dans un réseau total qui doit être ouvert, en fait, à l'appropriation des enfants.
Si je peux me permettre, je pense qu'aussi, il y a l'espace classe, donc on y est quand même tous ensemble. Des fois, ce n'est pas toujours évident selon les activités qu'on veut faire. Et du coup, les différents espaces, que ce soit la cour, que ce soit le couloir ou si on a une salle vide, par exemple, moi, j'ai la chance d'avoir une salle vide à côté de la classe, ça peut être aussi pour un objectif pédagogique, une intention pédagogique particulière. Je sais que nous, on travaille beaucoup avec le numérique, donc soit pour écouter, soit pour s'enregistrer. Quand on veut vraiment du silence, les enfants savent en autonomie qu'ils ont le droit d'aller dans le couloir, qu'ils ont le droit d'aller dans la salle de classe à côté. Alors, bien sûr, hein, c'est une confiance, c'est un contrat de confiance qui s'établit au fur et à mesure des semaines, des mois et des années, moi en les gardant 3 ans. Et le couloir, je sais que je l'investis aussi des fois avec un groupe, souvent les petits, parce qu'on a besoin dans une séance de maths de se déplacer. Donc il nous faut une distance un petit peu plus longue ou dans une séance de science. Quand on fait le transport de l'eau, par exemple, on est beaucoup mieux dans le couloir parce qu'on a une grande distance. On ne dérange pas les groupes qui sont en classe à côté en autonomie parce qu'on va parler fort, parce que ça va nous faire rire, etc. Donc voilà, c'est aussi pour une intention pédagogique différente, mais que ce soit avec la maîtresse, en autonomie ou à 2 ou à 3. Enfin, nous, je sais que dans la classe, les règles sont différentes en fonction de ce que l'on veut faire dans l'espace.
Cette notion-là que vous avez évoquée toutes les deux plusieurs fois d'intention pédagogique, d'élan pédagogique, elle amène assez naturellement une question entre espace et pédagogie. C'est dans quel ordre? Qui modifie quoi? Qui impacte sur quoi? La poule ou l'œuf? C'est cette fameuse question, hein, parce que je dis ça, on voit de manière assez dogmatique parfois de dire non, mais ne bouge pas ta classe, réfléchis d'abord à ta pédagogie et ensuite bouge des choses. Et j'ai l'impression, enfin c'est pas qu'une impression dans ce que vous dites, bouge les choses et ta pédagogie va évoluer aussi quelque part. C'est ça, Ève ?
Faut bouger les deux. D'abord, faut avoir envie, hein. Faut avoir envie aussi, hein, de remettre un petit peu en cause ce qu'on fait et puis de peut-être regarder différemment sa nouvelle année scolaire. Hein, voilà, faut avoir envie. Et puis, à partir du moment où on bouge le mobilier, on bouge le matériel, on va toucher à l'espace, on va toucher à la gestion du temps aussi, à l'organisation dans le temps, à la manière de faire travailler les élèves, au type de regroupement. Hein. Et puis, on va toucher aussi, bien sûr, au rôle qu'on a. Hein. C'est pas simplement la posture qu'on a par rapport aux enfants, c'est aussi ce qu'on a, en fait, comme visée pédagogique en utilisant tous les paramètres sur lesquels on a introduit de la mobilité. Voilà.
On va maintenant un petit peu peut-être soulever des difficultés, parce que dans tout ce qu'on entend, tout est extrêmement attirant, donne envie, et il y a des enseignants qui se lancent, et pour autant, ça fonctionne peut-être pas toujours comme on l'imagine ou comme on le dit aujourd'hui. Donc on aimerait bien avoir un peu un retour de votre part par rapport à ça. Par exemple, Il y a des enseignants, par exemple, qui estiment que les enfants sont sont plus autonomes, effectivement, sont plus heureux, entre guillemets, dans ce type de fonctionnement. Mais ils ont l'impression qu'ils survolent peut-être un peu les activités, qu'assez vite, ils abandonnent s'ils ont une difficulté, parce qu'ils ils vont partir sur un autre atelier ou dans un autre espace qui va être moins, peut-être qui va leur demander peut-être moins d'efforts. Donc, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce type de questions ?
L'instauration des règles, hein, Delia ? Ça veut dire qu'effectivement, à partir du moment où on offre d'autres activités, d'autres manières de fonctionnement, d'autres manières de fonctionner, il va falloir quand même poser le cadre.
C'est ce que je voulais dire, en fait, c'est ça, c'est... des fois, quand on parle d'aménagement des espaces, de classes flexibles, on a l'impression hein, que c'est waouh, c'est une grosse fiesta et en fin de compte, tout le monde fait ce qu'il veut dedans. Non, pas du tout. Y a un cadre. Alors oui, il y a peut-être plus de liberté que dans certains fonctionnements de classe, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours ce cadre. Et par exemple, là, sur l'exemple que tu disais sur les activités, eh ben, j'ai eu le cas en plus cette année. Voilà, on a dû réexpliquer qu'une activité, elle n'est pas juste faite pour être sortie. Essayer deux secondes et la ranger. Déjà, il y a une règle, c'est que si je n'y arrive pas, bah déjà, je demande à alors soit un adulte, avant de demander à un adulte de nous aider. Et peut-être que si je n'y arrive pas, c'est qu'elle n'était pas adaptée à mon niveau, à mes compétences du moment, parce que une activité normalement que je ne connais pas, je ne la sors pas. Ou je la sors avec un enfant plus expert qui va jouer avec moi ou qui va montrer. Donc voilà, ça va être des choses comme ça. Après, comme dans tout fonctionnement, en fin de compte, il y a des règles. Peut-être que celles-là, elles sont pas plus lâches, mais le cadre est plus grand, avec plus de liberté dedans.
Pardon, vous voulez dire quelque chose, Ève ?
Non, je dis, ce fonctionnement par essai-erreur qu'on permet aux enfants, il faut aussi se l'autoriser pour soi-même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des années, moi j'ai des équipes d'enseignants qui m'ont dit « Cette année, on a toutes décidé en fait, de modifier notre espace de regroupement, par exemple. » Et je les vois à la fin de l'année, je les revois à la fin de l'année, elles me disent bah en définitive, oui, on a gardé cette idée de regroupement central, mais par contre, on a modifié l'organisation de nos coins et espaces de jeu parce qu'on a vu que ça ne fonctionnait pas. Quoi.
Il y a un autre élément de tension, dans le bon sens du terme, qui revient parfois dans les interrogations, c'est on va vers une sorte d'individualisation des apprentissages. Est-ce que c'est un objectif en soi et quelle articulation avec le rôle du collectif dans les apprentissages ? Dans ces classes où on voit un petit peu les élèves qui travaillent peut-être parfois chacun dans leur coin, comment se fait l'articulation ? Peut-être Delia ?
Alors moi, l'individualisation, elle me paraît nécessaire, mais je vais dire obligatoire, parce qu'on l'a déjà dit, hein, chaque enfant, on accueille un groupe d'enfants, mais ils sont tous différents. Un enfant de 3 ans n'est pas identique de son voisin de 3 ans, et voilà, et un 4 ans peut être comme un 3 ans. Enfin, on sait qu'ils sont tous différents avec leurs capacités et leurs difficultés. Après, l'individualisation, oui, mais on n'oublie pas le collectif. Et moi, ça, c'est important. Je veux dire, l'émulation, elle est là. On a besoin de moments collectifs. Alors, ça va être de moments collectifs pour chanter, pour raconter des histoires, mais aussi des moments de regroupement où chacun, en fait, explique ce qu'il a fait le matin. Donc, en fin de compte, ces moments collectifs vont permettre à chaque individu d'expliquer ce qu'ils ont fait individuellement. Et un enfant va expliquer ce qu'il a fait. Ça va permettre, quand tout le monde l'écoute, à un autre enfant de se dire « Ah bah tiens, demain, je ferai bien cette activité. » Ou « Oui, moi, je l'ai faite, mais je ne l'ai pas faite de cette manière. » Ou etc. Donc, je pense qu'il y a une individualisation qui est nécessaire par rapport aux capacités des enfants. Et c'est ce qui nous est demandé aussi dans les programmes. Mais je pense qu'il y a des moments dans l'emploi du temps où il faut ces moments collectifs qui, pour moi, sont vitales, en fait, pour cette vie de famille qu'on essaye de mettre dans notre espace classe.
Alors, il y aurait encore peut-être beaucoup de choses à voir ensemble, mais peut-être une question sur ce qui se passe après la maternelle, parce que parfois, l'écart est bien grand quand un élève arrive en CP. Comment est-ce que on peut gérer cette liaison, en fait, et est-ce que c'est le CP qu'il faut modifier? Est-ce que, voilà, comment vous pensez qu'il faudrait faire pour que les élèves aient un parcours qui soit peut-être moins heurté en arrivant dans le cycle 2?
Alors, j'allais dire qu'il faut faire confiance, en fait, aux rencontres et aux échanges d'expériences entre enseignants. Moi, je l'ai vu sur le terrain. C'est-à-dire que l'école maternelle a toujours, en fait, développé une pédagogie, j'allais dire, un petit peu expérimentale et un petit peu novatrice par rapport à l'école élémentaire, parce que, bon, voilà, on avait un petit peu plus d'espace de liberté. Et là, je vois dans les réflexions que les pratiques de l'école maternelle contaminent, au moins au niveau du CP, transmettre des bonnes idées. Et quand on a mis en place ces fameux CP dédoublés, on s'est aperçu en fait que les équipes d'enseignants s'étaient inspirées de ce qui se passait à la maternelle pour pouvoir justement gérer en fait des petits groupes, des demi-groupes, et qu'on a vu réapparaître dans des classes de CP en fait des coins dédiés, des espaces dédiés avec des activités qui étaient en fait d'accès autonome pour certains élèves. Donc je trouve que cette diversification, elle a pu effectivement profiter à l'école élémentaire. Et moi, je l'ai même vu en cycle 3, ça. Dans des classes de cycle 3, j'ai vu des choses très intéressantes sur le choix des assises et la place du corps des enfants dans l'espace, avec des projets coopératifs et ce qu'on appelle des travaux collaboratifs. Ça, c'était super intéressant.
On peut renvoyer, on le disait en introduction, vers l'épisode de Parlons Pratique qui est dédié aux classes flexibles, qui amène quelques éléments autour de ce que vous dites, Eve. On se dirige gentiment vers la dernière partie de l'émission. On aimerait échanger tellement plus de choses autour de ces questions-là. J'imagine, Hélène, qu'il y aura sans doute d'autres épisodes autour de cette question, que ce soit des énergies scolaires ou des parlons pratiques. Mais on a pour tradition de terminer l'émission en demandant à nos invités, et donc à toutes les deux, une inspiration autour de cette thématique. Alors, on va commencer peut-être par Delia.
Oui, alors moi, l'inspiration, on va dire que c'est plutôt visuel. C'est des photos de classe. Et Eve, tu en parlais tout à l'heure, des photos de classe des pays du Nord qui sont très aérées, alors qu'on peut voir sur les réseaux, que ce soit Pinterest, Instagram ou voilà. Je n'ai pas de lien particulier. Mais en fait, il y a ces photos, voilà, d'espace aéré et en fin de compte d'un espace où on se dit j'ai envie de rentrer. Et si déjà j'ai envie de venir, je vais avoir envie d'apprendre. Alors, et ces espaces très épurés, et je ne sais pas si c'est à l'inverse, mais qui sont différentes, ce sont ces classes américaines qui sont alors très colorées, avec du fluo, des couleurs, etc. Mais qui ont un fonctionnement en espace où l'élève a une place vraiment différente de notre fonctionnement. Donc pour moi, c'était ça. Et après, je ne peux pas ne pas en parler, c'est les échanges avec les collègues et les enfants, en fait. Les observer, discuter avec eux, que ce soit avec les enfants ou avec les collègues. Et ça apporte beaucoup, je trouve, à la pratique.
Oui, tout à fait. Tu as raison, Delia. Sur les réseaux sociaux, enfin moi, Je suis beaucoup sur les réseaux en ce moment parce que je travaille sur un autre projet, sur la première année d'école maternelle. Et il y a plein de très bonnes démarches, très bonnes pratiques, en fait, qui s'échangent entre les enseignants. Alors, toi, tu as parlé des images. Moi, je vais parler du son, Delia. J'ai eu le plaisir de faire avec deux enseignantes, une en toute petite section de maternelle et une qui travaillait à l'époque en cycle 3 et qui maintenant travaille en cycle 2. C'est deux influenceuses, entre guillemets, hein, c'est deux maîtresses en basket, c'est Nina et Anaïs. Et on s'est rencontrés à l'occasion d'un projet de chez Nathan pour faire un podcast qui s'appelle Voix d'école. Et j'ai trouvé qu'à cette occasion, moi qui ai beaucoup appréhendé la pédagogie et le fonctionnement de la classe en tant qu'observatrice, parce que c'est mon boulot, hein, d'aller voir un petit peu comment ça se passe, et je recueille énormément d'éléments d'observation. C'est-à-dire que je connais quand même bien plein de paramètres sur lesquels on peut agir. Et j'ai échangé avec ces deux maîtresses, et en fait, on est tombé d'accord sur plein de choses, avec des origines de réflexion différentes. En fait, on était en accord total sur voilà ce qui marche avec les enfants.
Merci, Evelyne Le Gallant. Vous anticipez un petit peu sur un prochain Parlons Pratique qui sera consacré aux profs influenceurs, justement. Mais bon, en conclusion, on vous remercie beaucoup toutes les deux pour ces approches. Finalement, l'inspiration, c'est la maternelle, c'est elle qui contamine, c'est ce que je retiens, qui peut contaminer les autres cycles. On espère avoir donné quelques clés d'inspiration dans ce sens. Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci à vous.
Merci.
Merci beaucoup. La conquête de l'espace classe, un épisode Parlons Pratique, préparé et animé par Hélène Audard
et Régis Forgione.
Réalisé grâce à l'appui technique de Floriane Lemaître de l'atelier Canopée 92
et Héloïse Balzac de l'atelier Canopée 51.
Montage et mixage,
Simon Gattegno.
Coordination de production,
Luc Taramini, Hervé Thury et Magali Devance.
Directrice de publication,
Marie-Caroline Missir.
Suivez-nous sur extraclasse.reseau-canopée.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie.
Une production Réseau Canopée 2022.
Bon, génial ces deux invités, Hélène. Franchement, un super épisode.
Ouais, très sympa. Un nouvel épisode sur la maternelle. Très chouette.
Ouais, ça fait plaisir. Extra classe.